BFM Business partenaire. Check-up santé, en partenariat avec Giffard, réseau de 1400 pharmacies partout en France.
BFM Business, Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur sur le plateau et j'en suis ravi. Elle s'est fortement développée en 2020, c'est la téléconsultation. Marie-Laure Saillard, CEO de Médocteur, leader de la téléconsultation, est notre première invitée. Les soignants soignent, mais ils sont eux aussi soumis à une pression physique et mentale, parfois délétère, sur leur santé et surtout leur rapport avec avec les patients. Pauline Dubard, de l'association Soins aux professionnels de la santé, est ma deuxième invitée. Enfin, les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité chez la femme. Et ça ne plaît pas du tout à Claire Mounier-Veillé, cofondatrice de Agir pour le cœur des femmes. Bon, elle est venue avec un homme, Thierry Drillon, cofondateur de cette fondation et aussi président de la Chambre de commerce franco-britannique. Check-up santé se conjugue aujourd'hui au féminin et c'est tant mieux. Marie-Laure Saillard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez créé, vous n'avez pas créé, vous avez repris il y a quelques années l'entreprise Médocteur, qu'on peut appeler aussi Médocteur.com ou pas ?
On peut, on est dans le domaine du digital.
Oui, donc Médocteur qui a été créé en 2015.
En 2015.
Et vous avez donc, l'entreprise a été rachetée par une mutuelle et vous en êtes la CEO actuellement. Vous êtes aussi, puisque vous êtes bien, vous êtes dans le bain de la téléconsultation,
de
la télémédecine.
Ça y est, je suis tombée dedans.
Vous êtes tombée dedans, vous êtes présidente du LEM, les entreprises de télémédecine. Alors comment évolue la téléconsultation en France ?
Alors, l'année 2020, on a tendance à dire, c'est l'année de la téléconsultation. C'est l'année où les Français et les pros de santé ont découvert. Un Français sur trois a expérimenté la téléconsultation en 2020 et deux tiers des médecins généralistes ont expérimenté la téléconsultation. Donc, on va dire, il y a une explosion parce que si on reprend les chiffres de 2019, il y a un petit peu plus d'un an, sur l'ensemble de l'année, il y avait eu 75 000 téléconsultations financées par la Sécurité sociale. En 2020, 1,9 million.
Ouais.
On voit un peu les échelles.
Le Covid a participé à cette explosion.
Alors, exactement, le Covid a participé à cette explosion, puisque vous vous souvenez que quand le professeur Salomon s'adressait aux Français tous les soirs, il nous disait « utilisez la téléconsultation, évitez la contagiosité des cabinets libéraux ». Donc à cet appel quotidien, c'est accompagné également tout un dispositif de prise en charge à 100% par la Sécurité sociale et de facilitation des usages, sachant qu'il faut bien avoir en tête quand même que dans ce cadre de la crise pandémique, dans les 1,9 million de téléconsultations dont je vous parlais financées par la Sécu, il y a 30% qui sont faites par téléphone et 29% par WhatsApp. Donc on est sur des usages dégradés en période pandémique et des usages qui ne recourent pas forcément aux outils qui sont sécurisés au plan des datas, des données de santé et au plan des process. On est en gestion de crise.
Mais là c'est une croissance évidemment exponentielle.
Exponentielle,
mais
absolument.
C'est pas un peu transitoire ? Est-ce que cette courbe ne va pas s'aplatir ou alors elle va continuer à progresser peut-être moins qu'en 2020 ?
Alors, oui et non en général. Elle va s'aplatir, oui, si elle reste par ailleurs complètement liée à une gestion de crise sanitaire. Parce qu'on le voit bien, nos chiffres de consommation de téléconsultation, ils sont assez connectés avec les périodes confinement, déconfinement, nouvelle vague ou pas. Donc si on reste sur un usage seulement de gestion de crise sanitaire avec les médecins généralistes, ça va, on l'espère bien tous, ça va décroître.
Mais la téléconsultation. Les habitudes sont prises.
Les habitudes sont prises et surtout les Français sont mais extrêmement enthousiastes, beaucoup plus que nos voisins européens. Par ailleurs, ils ont expérimenté la téléconsultation, ils ont adoré ça. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour continuer à croître.
Qui doit rester bien sûr complémentaire de.
Alors c'est évidemment complémentaire, physique. Il est hors de question de tout faire à distance. Et donc pour le développement de la téléconsultation aujourd'hui, il faut aller chercher d'autres usages qui sont des usages, par exemple, de suivi des patients en ALD par leur médecin, où il n'est pas forcément nécessaire de se voir en présentiel à chaque fois. C'est utile, évidemment, de le faire, mais il y a des visites interstitielles, on va dire, qui peuvent être très bien faites à distance, en visio, avec un patient, par exemple. Et c'est là que les usages vont continuer à s'installer et à progresser, et c'est ça le pari qu'on fait, et on est convaincu que ça va apporter beaucoup de bénéfices.
Alors, revenons à votre plateforme, Médocteur.com. Donc, c'est une plateforme principalement de télémédecine, même s'il n'y a pas que ça. Vous avez aussi une gestion d'agenda?
Oui, alors...
Il n'y a pas que Doctolib sur Terre.
Il n'y a pas que Doctolib sur Terre. Merci Fabien de le rappeler.
Dit, on
et on est en train d'y travailler sur la constitution de la filière e-santé avec le gouvernement. Donc, l'agenda, c'est quoi? L'agenda, c'est ce qui permet de donner accès à de la téléconsultation programmée. Ce modèle-là, il existe depuis l'avenant 6, fin 2018. Donc, on faisait de la téléconsultation avant l'avenant 6 et on était plutôt dans des usages de non programmés, par exemple. Donc, avant l'année dernière, on n'avait pas forcément besoin d'avoir une prise de rendez-vous. Aujourd'hui, grâce à MedDoctor, par exemple, avec tous les clients complémentaires santé que nous avons, il y a un Français sur trois là, a accès à MedDoctor pour faire de la téléconsultation non programmée, donc où il n'y a pas besoin d'agenda. Et surtout, il n'y a pas d'argent à sortir, il n'y a même pas de reste à charge puisque c'est complètement pris en charge. Donc les usages de l'agenda...
Pour l'instant,
mais massivement, j'ai 25 millions de Français qui utilisent mes services. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'usage.
Alors,
comment ça se passe, ça
marche 7 jours sur 7, 24 heures sur 24?
24/7, absolument, ouais, sans prendre de rendez-vous préalablement.
Donc avec des médecins, mais pas seulement des médecins?
Alors, majoritairement, c'est avec des médecins, la téléconsultation. On a également un accès à des sages-femmes. On a pensé que c'était intéressant de suivre le parcours des femmes et des futurs parents et que le rôle des sages-femmes était intéressant. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, la téléconsultation concerne des médecins. La HAS, cet été, a posé les principes pour dire il y a énormément d'auxiliaires médicaux qui vont pouvoir faire de la télésanté. Les décrets ont été signés en décembre. On attend... Là, les codes actes, on pense que ce sera l'horizon de l'été. Et donc, on a vocation à donner accès à tout type de professionnels de santé autour d'un parcours qui fait du sens, en fait.
Justement, ces professionnels de santé ne sont pas exclusifs. Ils
absolument
ont aussi
leur
cabinet.
Ah, évidemment, en fait, il est hors de question d'avoir des médecins qui ne font que de la téléconsultation. En fait, les pratiques s'enrichissent mutuellement. C'est ce que nous disent tous les professionnels de santé qui travaillent avec nous.
Et quelles spécialités sont les plus représentées?
Alors, en téléconsultation, le plus naturel, c'est quand même à 80% de la médecine généraliste, hein, parce qu'on peut régler énormément de sujets. En médecine généraliste. Ensuite, on a bien sûr la psychiatrie, et en ce moment, en plus, on sait à quel point c'est important. Mm-hmm. Et puis, tout ce qui va être aussi accès un peu compliqué, ce qui fonctionne très bien, c'est la dermato. Ça fonctionne très bien en téléconsultation, et en plus, on sait bien que l'accès aux dermato sur les territoires, c'est pas facile. L'ophta aussi peut bien fonctionner en téléophtalmo.
D'accord. Et vous avez aussi des solutions en entreprise pour proposer des...
Alors, effectivement, chez MedDoctor, on a tous les parcours avec la sécurité sociale, les médecins, les entreprises, les complémentaires santé. Nous, notre obsession chez nous, chez MedDoctor, c'est l'accès aux soins et de participer à cette transformation du système de santé.
Et comment sont rémunérés les médecins qui font des...
Les médecins sont toujours rémunérés à l'acte. C'est un acte qui est établi, c'est un principe qui est établi. Donc les médecins
sont pris en charge par l'assurance.
Par l'assurance maladie, si on est dans le parcours de soins, par une complémentaire santé, si on est hors parcours de soins.
Vous dites que l'avenir, c'est la formation des étudiants à la télémédecine,
absolument essentiel, absolument essentiel sur les nouveaux usages du numérique en santé. Et aussi, il faudra aussi aller travailler sur la sémiologie. Et ça, c'est très important de l'adapter aussi à ces usages à distance de la médecine.
On parle de télésémiologie, donc
absolument.
Téléconsultation avec une personne qui a des capteurs, etc. pour...
Absolument, ça c'est complètement clé, c'est sous-jacent à la téléconsultation, à la télémédecine, c'est qu'on peut aussi véhiculer des données, donc grâce à des objets connectés, grâce à des capteurs, et c'est comme ça qu'on va aussi faciliter le travail des médecins, des professionnels de santé au quotidien, et qu'on pourra faire de la télésurveillance demain, quand on aura établi le schéma avec la sécurité sociale. Et là, ce sera vraiment un gain énorme pour l'ensemble des Français, et aussi du système de soins et
du financement. Les patients qui s'y s'inscrivent, qui vont sur votre plateforme, c'est gratuit pour eux ou... Alors, il y a un abonnement,
Oui, alors nous, on n'est pas en B2C chez MedDoctor. Hein, donc, le patient, il arrive dans notre parcours, soit parce que son médecin traitant lui a dit, on va faire en téléconsultation. Donc là, il paye un acte à son médecin, très classiquement. Et là, c'est le médecin qui paye l'abonnement à nos services.
D'accord.
Soit il rentre dans notre parcours via sa complémentaire santé. Et là, il n'a pas un sou à avancer, il n'a pas d'avance de frais.
Parfait, bonne chance et bonne continuation à votre plateforme qui a l'air de... Très bien marché.
Merci
beaucoup Marie-Laure Saillard. On va à présent accueillir Pauline Dubard de l'association Soins aux professionnels de santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Pauline Dubard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable de projet de santé publique pour l'association Soins aux professionnels de santé, qui est une association reconnue d'intérêt général. Vous êtes à l'origine infirmière.
Tout à fait.
Et vous avez raccroché votre blouse ?
Exactement. Donc, j'ai travaillé 12 années en réanimation et j'ai décidé...
À Lille ?
À Lille, exactement. Mmh. Et j'ai décidé depuis peu de raccrocher ma blouse pour m'investir davantage sur cette question de la prévention des risques psychosociaux pour les professionnels de la santé et les étudiants.
Oui, donc vous avez une double expérience. Vous avez été des deux côtés des caméras, puisque vous avez une expérience aussi un peu familiale.
Tout à fait, oui. J'ai effectivement été des deux côtés de la barrière, côté soignant et côté des familles, familles de personnes malades. Oui.
Alors c'est sûr que les soignants, encore plus évidemment, on parle toujours de cette crise Covid, mais on y est obligé. Hein. Les soignants ont accumulé le stress, la surcharge de travail... le manque de moyens aussi, hein, oui. Qui ont fini par agir sur leur santé physique et mentale.
Exactement, donc c'est un sujet qui existe depuis bien longtemps. La crise de la Covid-19 nous a permis de mettre tout ça en lumière et a dégradé fortement la santé mentale de ces professionnels, comme je pense de l'ensemble des citoyens français, puisqu'il y a aussi
Sauf
le contexte...
Sauf que le professionnel de santé, il n'a pas tellement l'habitude de se plaindre.
Tout à fait.
Pour lui, c'est un sujet tabou,
oui.
Non ?
Oui, alors c'est tabou pour le professionnel, mais aussi pour les institutions, parce que c'est difficile d'admettre qu'il y a de la souffrance dans son établissement de santé, tout simplement. Et en tant que professionnel, on a du mal, effectivement, à se sentir en difficulté et à l'exprimer, surtout de peur d'être stigmatisé à l'intérieur des services.
Et donc, ce stress, il a aussi eu une interaction sur les rapports entre médecins et patients.
Oui, je pense que...
Des retours là-dessus, oui.
Oui, parce que je pense que pour se protéger, les professionnels déshumanisent le patient qui est dans le lit et finissent par avoir une perte de sens de leur profession qui engendre forcément une attitude qui peut être déplaisante envers le patient, la famille ou envers les collègues, un manque de motivation, des arrêts maladie à répétition ou des accidents de travail. Il y a un turnover aussi qui diminue la qualité des soins, inévitablement.
Peut-être mal perçu par les patients.
Oui, tout à fait, puisqu'ils sont face à des soignants qui n'ont plus tellement envie de les soigner ou qui ne sourient plus lorsque l'épuisement professionnel s'installe insidieusement.
Alors, donc, votre association, donc Soins SPS,
oui.
Soins professionnels de santé,
de
ça
la
marche
santé,
comment
oui.
alors ?
Alors, en fait, nous avons deux missions principales. Une mission d'accompagnement des professionnels de la santé et des étudiants. Donc, un parcours de soins complet qui va du numéro vert... Ensuite, des consultations via le Réseau National du Risque Psychosocial, qui est composé de 1000 experts, médecins, psychologues et psychiatres.
Et aussi, qui ne sont pas exclusifs, hein, votre association ou pas ?
Non, on n'est pas exclusifs, on est ouvert à tout le monde. Les personnes qui souhaitent rejoindre notre réseau, évidemment, c'est avec grand plaisir. On a toujours besoin de plus en plus de personnes, puisqu'aujourd'hui, la question est vraiment prégnante. Et ensuite, nous avons aussi un système d'hospitalisation. Donc ça, c'est toute la partie accompagnement des professionnels en souffrance. Et de l'autre côté, on a le versant prévention et mieux-être. Donc pour améliorer la qualité de vie au travail et finalement global. Et en fait, on organise des ateliers qu'on appelle des JAD. Donc c'est journée d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé.
Et ça, dans toute la France, hein, vous avez
dans
un réseau
toute la France,
national.
Oui, c'est national. Et en fait, ces ateliers sont proposés en ce moment en visio. Donc via le site, ça s'appelle IJAD. C'est format court qui dure une heure, qui sont proposés deux à trois fois par semaine, qui sont entièrement gratuits. Donc voilà, j'invite les professionnels, les étudiants à se connecter à ces JAD pour venir se ressourcer et pouvoir faire baisser la pression.
D'accord. Donc les professionnels de santé vous appellent spontanément ou alors ça a été dur, ça a été un gros travail de communication ?
Oui, alors au démarrage un peu compliqué. Finalement, pendant la crise, on a eu plus de 6000 appels, donc vraiment quelque chose d'impressionnant. Et je pense que la Covid...
Vous avez des exemples de types d'appels, non de...
Alors c'est très varié, ça va de quelqu'un qui a vraiment besoin de vider son sac et juste de parler, jusqu'à la personne qui est en risque suicidaire majeur, des personnes qui sont au bout du rouleau, qui ne peuvent plus aller travailler et qu'on doit hospitaliser immédiatement. C'est arrivé.
Ah oui, donc ça va jusque-là.
Oui.
Mais dans l'immense majorité des cas, c'est une conversation avec un psy ou avec
oui, et, ou alors peut-être de prévoir des consultations, un suivi un peu plus régulier en téléconsultation en fonction des contraintes sanitaires qui nous sont imposées, évidemment.
Cette association existe depuis longtemps, non ?
2015. Donc l'association 2015. A été créée en 2015, la plateforme téléphonique en 2016, puisque l'association a aussi comme objectif de créer des enquêtes, des études pour évaluer finalement les besoins et les attentes de ces professionnels pour pouvoir offrir des solutions parfaitement adaptées à ce qui est demandé.
Ouais, et quel est le business model, le modèle économique
Donc c'est une association, loi 1901.
Donc, financée par l'État
On a des financements publics et privés, gros comme petits. On a la CNAM, on a certaines ARS, conseils régionaux qui nous appuient, qui nous aident.
Ouais. Les médecins sont rémunérés ou
Alors les personnes qui font de la plateforme plateforme. Ce sont des psychologues qui accueillent les professionnels au bout du fil. Donc, il y a aussi une application mobile que j'invite à télécharger, évidemment, parce que vous avez le visage du psychologue. Donc,
c'est... Qui s'appelle comment ?
L'application, oui. Alors c'est ASOSPS sur l'App Store ASOSPS. Ou le Google Play, oui. On le trouve facilement. Mm-hmm. Une appli gratuite. Oui. Et ça permet de, si on veut rappeler la même personne, de savoir à qui on s'est adressé, de retrouver le même psychologue. Mm-hmm. Donc ces psychologues sont des libéraux et qui sont rémunérés pour faire ce travail et qui sont formés aussi surtout à cette question de l'accompagnement des professionnels donc, de la santé.
Il n'y a pas de professionnels de santé salariés, quoi.
Non, ils sont tous indépendants, mais d'accord. Financés pour les appels et les astreintes.
Merci Pauline, merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On va accueillir à présent Claire Mounier-Veillé et Thierry Drilon, qui sont les cofondateurs de Agir pour le cœur des femmes.
BFM Business, Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Claire Mounier-Veillé, bonjour.
Bonjour Fabien.
Thierry Drilon, bonjour.
Bonjour.
Alors Claire, vous avez le plus beau métier du monde.
Ah oui, hein, comme vous.
Je suis bien passé. C'est pour ça que je le dis. Donc vous êtes chef de service à l'Institut Cœur Poumon du CHU de Lille. Vous êtes ancienne présidente de la Fédération française de cardiologie. Vous êtes l'auteur de Mon combat pour le cœur des femmes aux éditions Marabout. Et vous êtes là aujourd'hui pour le fonds de dotation que vous avez cofondé avec Thierry Drilon, Agir pour le cœur des femmes. Thierry Drilon, vous n'êtes pas médecin.
Non.
Personne n'est parfait, mais vous nagez comme un poisson dans l'eau dans le monde des technologies depuis des années, puisque vous avez dirigé Microsoft, Cisco, Euromédia Group, et vous êtes aussi, et c'est important, président de la Chambre de commerce franco-britannique. Alors Claire, ça ne date pas d'hier, votre intérêt pour les femmes ?
Oh, l'intérêt pour les femmes, ça fait bien 30 ans, même plus, ouais. Que je voulais être gynécologue. Mm-hmm. Comme j'avais un père cardiologue, je voulais surtout pas faire cardio comme lui. Puis finalement, comme j'ai une amblyopie, j'ai pas pu faire chirurgie, et voilà. Donc je suis devenue cardiologue.
Mais est-ce qu'il faut être une femme pour s'intéresser aux femmes, obligatoirement, ou pas, non ?
Non, c'est en fait une succession en faisant de l'hypertension artérielle. Je me suis intéressée aux hypertensions de la femme enceinte, à la contraception, puis en vieillissant, à la ménopause. Et en fait, voilà, on travaille avec les gynécos, les obstétriciens, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler ensemble, comme ils font aux États-Unis depuis maintenant plus de 20 ans.
Hein. Et donc, ce qui est hallucinant, et que peu de gens savent aussi, hein, c'est que la maladie cardiovasculaire sont devenues la première cause de mortalité
chez la
femme.
Oui, c'est la première. Une femme sur trois, c'est... Thierry connaît mieux les chiffres que moi, elle est meilleure que moi. C'est 18 000 décès par an, hein, c'est ça, de femmes. Et surtout, ce qui est...
200 décès par jour, je crois.
Oui, 200 décès par jour. Et d'ailleurs, il y a un rapport sur la mortalité maternelle qui est sorti au mois de décembre. Et c'est 66% des décès de cause évitable sont de cause cardiovasculaire chez la femme enceinte,
et alors donc,
qui est inacceptable.
Peut-être aussi, une des raisons aussi, c'est qu'on a peu étudié la femme. On dit depuis quelques années.
On a appris... On est à peu près de la même génération, on a appris la médecine avec des signes d'hommes. Et finalement, cette maladie cardiovasculaire des femmes, qui est une maladie de l'environnement, c'est des lésions particulières. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'avènement du coroscan, on dépiste des maladies coronaires de femmes asymptomatiques. Ça permet de mettre un traitement qui permet d'agir avant le premier infarctus. Donc effectivement, l'environnement fait que les femmes sont devenues... finalement, très sujet de maladie.
Elles fument,
oui, elles fument, elles sont sédentaires, elles sont stressées, il y a les hormones, effectivement, la contraception avec œstrogène de synthèse.
Mais des pantalons, voilà. Non, ça n'a rien à voir.
On va peut-être faire une étude là-dessus.
Et ce qui est aussi incroyable, parce que les gens ne savent pas, c'est que aussi le pronostic est un petit peu plus sombre chez la femme quand elle est atteinte de maladies cardiaques.
Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un retard diagnostique. Une femme qui fait un infarctus, elle va mettre entre 3 heures et 15 heures parfois à appeler le SAMU. Or, on sait qu'on a 2 heures pour revasculariser une coronaire. Pareil pour l'artérite, on va la soigner pour une sciatique, alors qu'elle a une authentique artérite, et finalement elle prend des anti-inflammatoires, ce qui est contre-indiqué, et hop, elle se retrouve au stade d'ischémie critique où il faut couper
c'est
la jambe.
C'est vrai que la symptomatologie chez les femmes, elle est assez atypique quand même. Hein.
Elle peut être typique quand même, hein, dans un cas sur deux, mais sinon c'est vrai que c'est des signes très très atypiques.
Alors Thierry Drilon, donc vous avez cofondé avec Claire le Agir pour le cœur des femmes. C'est un fonds de dotation, ce n'est pas une fondation ?
Alors c'est un fonds de dotation, tout à fait, qui finalement nous sommes avec Claire. Vous savez, la vie, ce sont des rencontres. Alors j'ai eu l'occasion de faire deux rencontres importantes. La première avec le regretté professeur Christian Cabrol, un homme absolument exceptionnel que j'ai eu le plaisir et le privilège d'accompagner. Et puis Claire. Et face à ces chiffres que vous rappeliez, c'est-à-dire 200 femmes par jour décèdent des pathologies cardiovasculaires, vous en avez 75 000 par jour dans le monde, eh bien nous avons décidé d'agir, on va dire, en additionnant à la fois cette expertise médicale, scientifique, qui est absolument exceptionnelle chez Claire.
Donc, synergique avec votre expertise.
Une expertise peut-être économique et sociétale, en fondant le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes.
D'accord. Qui fête
un an.
Qui fête un an.
Alors nous avons
quasiment
fêté
aujourd'hui.
Exactement, oui. Quasiment March. Aujourd'hui. Et ce fonds de dotation s'est donné finalement pour ambition, mm-hmm. à 5 ans, de sauver, que ce soit en France ou à l'international, puisque ça s'appelle la Women's Cardiovascular Healthcare Foundation, mm-hmm. à l'international, la vie de 10 000 femmes. Alors sauver la vie de 10 000 femmes en ayant 3 piliers d'action. On a appelé ça les 3 A du cœur. La première, c'est alerter, mm-hmm. faire en sorte que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun devienne un colibri de la prévention et soit informé finalement de ses mm-hmm. symptômes. La deuxième chose, c'est anticiper cette prévention positive, bienveillante, associant l'ensemble de l'écosystème de santé pour ces symptômes dont rappelait Claire. Et puis le dernier élément, c'est agir. Agir pour faire en sorte d'inverser cette tendance pour une seule raison, mm-hmm. et c'est la bonne nouvelle, c'est que dans 8 cas sur 10, on peut éviter à ces femmes évidemment. De rentrer dans la maladie.
Oh, mais tout ça, c'est un coût.
Alors tout ça, c'est oui. un coût, absolument.
Oui.
Et c'est la raison pour laquelle nous mobilisons à la fois l'ensemble des pouvoirs publics, nous mobilisons aussi le monde de l'entreprise, parce que comme chacun sait, la féminisation dans le monde de l'entreprise est quelque chose d'important, j'en sais quelque chose. Et donc toutes les entreprises ont aujourd'hui, encore plus dans cette période de crise sanitaire, l'importance que le bien-être au travail et la santé des salariés est quelque chose de très important.
Alors Claire, comment alerter alors ?
Comment alerter ? Ben, c'est ce que nous faisons déjà ensemble ouais. tous les trois. Mm-hmm. C'est dire aux femmes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Écoutez-vous, parce qu'on connaît bien notre corps. Si on écoute son corps, on écoute les symptômes. Et quand on a des facteurs de risque, parce qu'un infarctus n'arrive pas, c'est rarissime qu'il arrive sur une femme qui n'a aucun facteur de risque. Si on pense à la dissection dans l'artère phallopopérus, c'est souvent après une grossesse. Il y a quand même une circonstance favorisante. Ouais. Voilà. Donc une femme qui est fumeuse, ou qui a du cholestérol, ou qui est hypertendue, ou qui est en périménopause, mm-hmm. qui a une hérédité, elle a des symptômes, mm-hmm. essoufflement à l'effort, fatigabilité, palpitations, mm-hmm. même des douleurs atypiques souvent entre les deux épaules, ben, elle attend pas. Elle fait le 15. Et puis c'est tout, on est là pour ça. Et si c'est un appel pour rien, ce sera un appel pour rien. Le pire, c'est de pas appeler, quoi. C'est évidemment. Ça qui est très important.
Et est-ce que la crise Covid, elle a eu une incidence particulière?
La crise Covid, elle a eu un effet ben, pour voir quasiment plus que des femmes aujourd'hui. Alors je vois quand même encore des hommes. Hein. Mais allez, je fais comme le taco de Tsubo, 8 femmes pour 2 hommes. Effectivement, les femmes verbalisent un énorme stress au travail. Le stress du télétravail, mm-hmm. travailler plus. Ne plus bouger, elles vont plus en salle de sport, elles vont plus faire de la natation, elles voient plus les copines, celles qui fument, elles fument plus. On grignote, hein, parce que finalement, bah, le plaisir, mm-hmm. on aime bien manger. Mm-hmm. Donc finalement, ça grignote, ça bouge moins, c'est stressé.
Donc grosse incidence.
Grosse incidence, mais on peut agir. On peut agir,
voilà. Alors justement, quelles sont vos principales actions de communication?
Alors,
on va parler du bus.
Absolument, on va parler du bus, et merci oui. Fabien de nous donner l'opportunité. Alors en fait, quelle est cette opération, le bus du cœur? Mm-hmm. L'idée, c'est que cette crise sanitaire génère une crise économique qui va générer une crise sociale. Et donc, on sait très bien que l'entrée dans la maladie est d'autant plus importante pour les femmes en situation de précarité. Donc, nous avons décidé avec Claire et toute l'organisation eh bien, de lancer une opération, le bus du cœur. Alors, qu'est-ce que
c'est
que
le bus du cœur ? Qui conduit de vous deux, c'est...
Ah, non, non. Alors, moi, si vous me faites conduire, c'est dangereux.
Ah, oui, non, mais je tiens à ma vie, donc c'est moi qui vais conduire.
D'accord.
Donc, le bus du cœur, qu'est-ce que c'est ? L'idée, au-delà de la plaisanterie, c'est d'avoir une opération qui soit sur plusieurs années. Cette première année, nous allons, avec ce bus, aller dans 7 villes en France, aller au-devant de ces femmes précaires et faire en sorte de pouvoir dépister 2000 femmes. 2000 femmes qui sont en dehors des parcours de soins, ne prennent pas le temps de s'occuper d'elles, mm-hmm. qui la plupart du temps ne sont pas couvertes, et de faire en sorte de
qui
pouvoir...
Sont isolées, évidemment, oui.
Et qui sont totalement isolées, mm-hmm. qui ne s'occupent pas d'elles, et de faire en sorte de pouvoir dépister et les remettre dans un système de santé. Mm-hmm. Mm-hmm.
Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce fonds de dotation, il y a essentiellement des non-médecins qui font partie de notre gouvernance. On a 3 médecins, il y a Christine Delaveau, que je connais depuis 30 ans, qui avait initié voilà, le club des jeunes hypertensiologues.
On la salue d'ailleurs.
Voilà, on la salue, on la remercie, parce qu'elle est extrêmement impliquée dans Agir. Et on a également Geneviève Plubureau, qui est la papesse des hormones, qui est à Port-Royal à Paris. Nous sommes donc que 3 médecins dans cette gouvernance. Et après, nous sommes entourés de chefs d'entreprise. Et c'est vrai que Thierry nous a apporté une expertise qu'on n'a pas, nous les 3 médecins. Et puis à côté de ça, on a des ambassadeurs, des cardiologues, des gynécos, des nutritionnistes. Il y a Jean-Michel Le Self, par exemple. Mais surtout, on a des jeunes cardios. Et ça, c'est génial. Des jeunes cardios qui ont envie de s'investir dans la prévention. Donc pour nous, cardiologues, qui aimons mettre des stents, des défibrillateurs, et ben ces jeunes cardios disent, on met des stents, mais on veut aussi faire de la prévention. Et du coup, ils écrivent des articles, vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait, et ben sur le site internet Agir pour le cœur des femmes, il y a des articles écrits par ces jeunes cardiologues qui ont envie de participer au projet fédérateur. Et il n'y a pas qu'à Lille et à Paris, hein, c'est partout en France.
Donc voilà. vous avez une vision aussi internationale ?
Absolument. Donc l'ambition, c'est de faire en sorte que ce qui va être mis en place en France soit développé à l'international au travers de la Women's Cardiovascular Healthcare Foundation. Donc on est déjà présent à Dubaï, au Royaume-Uni, en Belgique, Monaco si on peut parler de l'international. Hein. Et l'objectif, c'est quoi Fabien ? C'est de faire en sorte qu'on puisse mettre en place un écosystème de santé, de la construction collective d'intelligence. Mmh. Et faire en sorte que finalement tous ceux qui partent du principe que c'est une urgence, et médicale et sociétale, eh bien, puissent s'associer avec l'ouverture de centres Agir pour le cœur des femmes, et notamment de permettre à ces femmes, dans leur vie hormonale, vous savez que vous avez les trois phases de plus grande sensibilité, la première contraception, la première naissance, et la phase de périménopause. Mmh. Et donc faire en sorte que ces femmes qui rentrent en phase de préménopause puissent bénéficier de consultations à la fois gynéco et cardio.
Très rapidement pour conclure.
Voilà pour conclure.
Montrez-moi le.
Alors, je vais vous montrer cette petite affiche. Alors simplement, si certains d'entre vous auraient oublié soit un bouton de culotte ou quelques petits sous, voilà, vous allez voir ça dans toute la France entière sur.
D'accord. Donc le site c'est. Voilà.
C'est www.agirpourlecoeurdesfemmes.com et je voudrais juste en profiter pour remercier parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se mobilisent. Mm-hmm. Et vous voyez, ces affiches vont être distribuées partout en France.
Tant mieux,
visibles
c'est la question que j'allais poser. Donc,
à Jean-Claude Decaux, JC Decaux, voilà.
10 secondes de conclusion.
Eh bien, il faut agir ensemble. C'est agir plutôt que subir. Voilà, donc on peut prévenir l'accident aujourd'hui. Voilà.
Bon, et ben on est là pour.
Et puis un grand merci. Vous êtes devenu un colibri de la prévention. Et on vous donnera en off le cœur. Hein. Thierry vous donnera
la Légion du cœur.
La Légion du cœur,
génial. Voilà. Génial. Merci beaucoup à vous deux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.
Check-up santé, en partenariat avec GIFAR, réseau de 1400 pharmacies partout en France.